Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot.
Jean Huitour.
23h17, c'est l'after avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz et avec Jimmy Brown. Et on va donc parler de ce projet Manso avec notre invité, puisque Aymeric Magne est en direct dans l'after. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes, je vous disais, le représentant de l'actionnaire. Vous êtes membre du conseil d'administration également, actionnaire aussi donc du club du Mans qui monte en Ligue 1. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu votre rôle? Comment ça fonctionne donc, avec en plus le président qui est en place? Comment ça s'organise?
Donc en fait, le groupe qui a racheté le club s'appelle Oatfield. Oui. Oatfield, c'est un fonds d'investissement. C'est pas un gros mot, on pourra revenir tout à l'heure. Et mon rôle, c'est de représenter l'actionnaire, c'est-à-dire de faire passer la vision auprès du président des actionnaires et auprès des actionnaires de leur faire comprendre le marché français, qui est différent des autres marchés. D'où je tiens ça, c'est qu'en fait, j'ai travaillé avant chez Colony Capital et chez City Football Group. J'ai vu des choses bien, j'ai vu des choses moins bien. Et je trouve qu'accompagner un actionnaire, c'est intéressant, puisque le rôle d'un président, c'est de gérer le club. C'est pas forcément de passer 50% de son temps à discuter avec ses actionnaires, ce qui était mon cas quand j'étais chez City Football Group.
Okay. Okay. Qui sont concrètement les gens qui ont l'oseille au Mans? Et combien ils ont? Est-ce qu'ils veulent développer le club, en faire un grand club? Comment ça va se passer? Parce que là, déjà, il y a la montée qui est totalement inattendue. Quand on est venu avec l'after au Mans, on recevait Thierry Gomez, le club était quand même haut au classement, mais on n'arrivait pas à imaginer que ça puisse aller en Ligue 1. Donc, qui sont les gens derrière? Combien il y a d'argent? Quelle est la taille du budget et l'ambition?
Alors, le fonds Oatfield gère 150 millions d'euros d'assets, donc d'actifs. Derrière eux, ils sont avec un fonds qui s'appelle Tricorp aussi, qui gère 600 millions d'actifs. L'objectif, c'est pas de, pour être clair, hein, pas de dépenser 100 millions et de construire un club n'importe comment. C'est de construire un club étape par étape. Le seul problème, c'est que on est un peu trop vite sur les étapes. Pour la petite histoire, en octobre 2024, c'est le début de nos discussions avec Thierry Gomez, Le Mans FC est 13e de national. Ensuite, il y a 20 victoires d'affilée. Quasiment, enfin 20 matchs sans défaite. Ils montent en Ligue 2. Quelques semaines après, on conclut l'accord avec un objectif de se maintenir le plus rapidement possible en Ligue 2. Bien entendu qu'on aide Thierry Gomez sur l'investissement pour pouvoir assurer, on va dire, une équipe qui peut se maintenir.
Oui, l'idée, c'était la montée sur 4 ans, non? C'est ça?
Ah, exactement. Ouais. L'idée, c'est de construire un club qui monte sur 3-4 ans en Ligue 1 et ensuite qui s'installe en Ligue 1 de manière stable. Mais on n'avait pas pour idée d'arriver tout de suite sur de la Ligue 1. C'est presque trop rapide pour nous, parce qu'on arrive dans un moment où on n'a pas eu le temps de construire les fondations du club. On n'a pas de valeur de joueurs pour pouvoir vendre et pour pouvoir un gros budget. Donc on n'aura pas un budget de folie l'année prochaine. On va assumer, on va dire, un budget entre 25 et 30 millions. Et on assumera le risque.
25 et 30 millions en Ligue 1 l'année prochaine.
Et on assumera le risque. On assumera le risque de descente. Mais après, on construit le club de manière sereine. On avait le 13e budget de Ligue 2. Et on a fini deuxième du championnat.
Mais les gens qui ont mis l'argent, là, bientôt on donnera les noms, tout ça, le public sait qu'il y a beaucoup de stars, beaucoup de gens connus dedans. Mais qu'est-ce qui les a motivés? Parce que il y a plus de droits de télé en France, il y a pas de renta. Comment on gagne de l'argent? Pourquoi ils sont venus en fait? Qu'est-ce qui les a intéressés?
Qu'est-ce qui les a intéressés? C'est le projet. Ils sont venus pour le projet. Ils ont mis de l'argent. Ils ont pas mis seulement leur nom, c'est important.
Djoko, il a mis de l'oseille.
Oui, ils sont pas venus avec leur nom.
Djokovic, il a mis de l'argent de sa poche.
Oui.
Mais il a mis combien?
Non, mais ça, je peux pas vous le dire, ça, bien entendu, vous savez bien.
Idée.
Non, mais il a mis de l'argent, je peux pas vous donner d'éléments, si on est sous contrat, ça c'est normal, mais chaque personne qui est venue.
C'est quantité négligeable ou ça?
Non, c'est une quantité non négligeable.
Okay.
Et c'est pour ça que c'était un des points importants. Quand nous, on a construit le projet, on a étudié avec le fonds Oatfield à peu près 100 clubs en Europe. On a étudié tous les clubs français, on a discuté avec 4 clubs, il y en a qu'un qui est ressorti tout de suite, c'est Le Mans FC, pour plusieurs raisons. La première, c'est on avait une gouvernance stable avec Thierry Gomez qui avait fait un très bon travail. On avait une ville qui était à 45 minutes de Paris. D'accord, c'est pas neutre. C'est le premier, voire deuxième marché mondial.
En TGV quand il n'y a pas de retard.
En TGV quand il n'y a pas de retard. Mais on est dans un environnement sain, tout de même, à 2 heures de Paris. On peut développer des joueurs, on peut leur donner du temps de jeu. La théorie aussi d'Oatfield, c'est de se dire on va être présent sur les deux plus gros marchés, que sont le Brésil et la France, à savoir qu'ils ont un club aussi au Brésil. Il y a une zone de chalandise de 350 000 personnes et des infrastructures sublimes. Le stade Marie-Marvin.
Mais attendez, je reviens quand même à Djokovic là. Ouais. C'est, tous ces arguments-là convainquent Djokovic.
Bien sûr.
Djokovic, il est pote avec.
Ou il est pote avec Oudsi.
Georgios Frangoulis. Qui est le patron d'Oakberry et le futur mari de Zabalenka.
Le patron, celui qui a le plus mis d'argent, qui est l'actionnaire majoritaire, c'est qui?
C'est Oatfield. Et en fait, c'est un fonds.
C'est pas Frangoulis.
Non, Frangoulis, il met de l'argent dans le fonds Djokovic, il met de l'argent dans le fonds et c'est ensuite le fonds qui acquiert avec ces personnes qui sont derrière.
Et vous investissez ailleurs que dans le foot, j'imagine, de fait.
Oui, oui, ils investissent. Donc c'est la partie outfield qui est la partie sportive. Ils investissent dans pas mal de dans la tech au Brésil, sur par exemple de la billetterie, du contrôle d'accès.
Pardon de vous couper. Donc quand Djokovic investit, il investit dans outfield ou il investit dans Le Mans FC.
Un fonds, ça fonctionne en plusieurs. Ça se sépare en plusieurs fonds en fait.
Plusieurs branches, d'accord.
Il y a un fonds dédié au Mans FC.
D'accord.
Donc Novak Djokovic, il investit à 100% sur le Mans FC.
D'accord. Et donc comment il trouve ça rentable? Comment, si vous lui vendez quoi pour être rentable? Parce que comme disait Daniel, il n'y a plus un droit télé, il n'y en a plus un blé en France. C'est j'imagine sur une potentielle revente du club dans X années.
Voilà, qu'on soit assez clair. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de fonds d'investissement ou d'investisseurs qui viennent dans les clubs? C'est parce qu'il y a déjà un prix d'acquisition qui est raisonnable.
En tout cas
raisonnable. Avec nous, on a choisi un club où il y avait des structures, des infrastructures, comme je l'ai dit, aussi un centre d'entraînement, etc., etc. Et avec, on va dire, un management qu'on va venir renforcer, parce qu'on estimait que le Mans FC en national, ça, c'était une sous-performance par rapport à la taille de la ville, par rapport aux infrastructures du club et son histoire. Et derrière, on va pas gagner d'argent dans un club sur le day to day, c'est-à-dire sur le PNL de la saison. On va le gagner, on va l'acheter X et on va le revendre 4X si on travaille bien. C'est là-dessus qu'on va trouver la rentabilité. Et l'objectif,
c'est de pas trop injecter d'argent dans cette période.
Exactement.
Aussi.
En tout cas, c'est d'être à l'équilibre sur la gestion du club. Au départ, bien entendu, on est obligé de mettre des fonds parce qu'au départ, on est obligé d'investir sur les infrastructures, sur les joueurs. Au bout d'un moment, il commence à y avoir une valeur sur les joueurs. Nous, ça nous aurait pris 3-4 ans quand même à faire, parce qu'il y a le centre de formation, c'est quand même un point extrêmement important.
Donc la ville vous a revendu. Vous pouvez racheter le centre d'entraînement et donc redévelopper le centre de formation qui n'existait pas, c'est ça?
Alors on a racheté le centre d'entraînement et on a investi sur l'académie qui n'existait plus, puisque le club est descendu en division 6.
Vous avez expliqué qu'on a un budget pour l'académie, quoi, 10, 15 millions?
Non, pour l'instant on a mis 4 millions, si vous voulez des chiffres. C'est pas non plus, on n'a pas non plus la catégorie 1 tout de suite. On fait étape par étape aussi. Il faut construire. On a la validation de la FFF et on l'aura officiellement au 1er juillet. Donc là, on peut garder nos joueurs, parce que ce qui se passait avant, c'est qu'on perdait nos joueurs. On en a perdu un qui est parti à Nice par ailleurs, gratuitement, parce qu'en fait, on peut pas les garder avant 20 ans. On pouvait pas signer de joueurs.
Okay. Et quand vous investissez, vous avez une échelle en vous disant, voilà, on est là pour 5 ans, 10 ans. Vous savez déjà à peu près, il y a une prévision sur la sortie?
Dans les fonds, de manière générale, on a entre 4 à 7 ans d'investissement. Voilà. Après, parfois, y a des fonds, et celui d'Outfield, ils ont des fonds avec des durées un peu plus longues, c'est plutôt des durées de 10 ans. Voilà. Parce qu'on sait que sur un club comme ça, il faudra quand même construire tout ça. Il y a quand même 4-5 ans pour monter en puissance. Et ensuite, on sera à peu près, on estime à, voilà, ce qu'on appelle en running. La vitesse de croisière. Et c'est là, on va commencer à pouvoir regarder pour potentiellement.
Ça apporte quoi, d'avoir ces vedettes? Parce que bon, il y a Djokovic, Thibaut Courtois, Sabalenka et son mari.
Felipe Massa.
Kevin Magnussen. Et d'autres vont arriver? Et je te donne
d'autres vedettes,
en tout cas d'autres investisseurs connus,
mais des sportifs.
Et pourquoi ils se rassemblent tous autour du Mans? C'est d'abord ils se connaissent entre eux.
Comme on l'a dit,
ils font la Formule 1.
Parfois, en fait, voilà, c'est aussi pourquoi Djoko il vient. Bien entendu, c'est le projet, c'est la première chose, mais c'est aussi des réseaux. Si Djoko il est venu, c'est grâce à Georgios qu'il connaissait très bien, parce qu'il était, il est très présent dans le tennis avec Sabalenka, parce qu'il a aussi la marque Oakberry qui est sponsor de la Formule 1, de Alpine notamment. Et c'est comme ça qu'on a ramené Felipe, ensuite Kevin. Et du coup, pour eux, plutôt que d'investir, tous les joueurs, vous le savez, ils investissent dans l'immobilier. Ils ont un investissement qui est peut-être un peu plus à risque que de l'immobilier, mais c'est leur cœur de métier. Ça les excite un petit peu et ils nous apportent quelque chose. Oui, parce que Felipe, il est déjà venu plusieurs fois. On voit que les messages qui sont passés avant le match. Je pense que c'est pas que de l'image. Je pense que quand on investit l'argent, c'est que c'est
la diversification.
Mais quoi, ils parlent au groupe. Mais c'est aussi un investissement passion. Tu vois, la vidéo de Courtois, quand il monte, il est comme un dingue. Djokovic, etc.
Courtois, c'est le seul qui connaît le foot. Donc, on peut imaginer que ce gars-là, s'il vient un jour, il peut parler à votre gardien.
Mais Mbappé, il a racheté un club, donc on peut comprendre que les joueurs.
Mais fait Novak, par exemple, en termes de performance et de mental, je pense qu'il y a pas. Enfin, c'est.
Mais il est venu en parler au club,
bien sûr.
Non, il faut qu'il en parle au club, etc. Pour ça,
il faut savoir quand même que Novak, il joue encore au tennis. Vous connaissez les calendriers du tennis. Bien entendu, qu'il va passer, c'est prévu. On n'a pas encore les dates parce que ça dépend de ses performances sportives et sa priorité.
Et vous savez s'il se renseigne sur les résultats
Je sais pas. Vous savez, je suis sûr qu'il se renseigne sur les résultats. Il regarde à chaque match. Il tweet. Il met sur son Instagram. On le voit plusieurs fois faire aller Le Mans sur tout ça.
Donc, il va prendre l'abonnement Ligue 1 Plus.
Il l'a déjà pris.
Non, là, il avait beIN Sport jusque-là. Mais là, il va passer à Ligue 1 Plus.
Ligue 1 Plus, c'était déjà l'année dernière.
Non, mais
Oui, mais c'est en Ligue 2.
Il a anticipé. Il fallait qu'il regarde la Ligue 1 pour voir à quoi il allait se frotter.
C'est incroyable, ces vedettes. Oui, c'est vrai que
il faut noter la date de Le Mans PSG dans le calendrier, là où il y aura tout le monde. Ils vont tous être là. C'est Daniel, il faut l'inviter pour Le Mans PSG. Tu vas voir tout le monde.
Le Mans PSG ou
au Marie-Marvin. Non, au stade Marie-Marvin. Ils seront tous là. Tu auras Djoko à côté de Daniel, à côté de M. Franck Goulis.
Avec grand plaisir, sachant que le stade Marie-Marvin n'a jamais vu la Ligue 1.
Ouais, c'est vrai.
Et Franck Goulis, il fait pas des boissons un peu bizarres?
Si, si, il fait c'est du açaï. C'est un fruit brésilien qui est en fait une boisson énergétique naturelle au Brésil, qui est très prisée par notamment les surfeurs et qui donne vraiment de l'énergie, mais de manière naturelle.
Sur la plage, ils te vendent que ça.
Bah, exactement. Et il a commencé il y a 8 ans.
Envoyez-nous un ou deux cartons, on va voir si ça marche vraiment.
Je vais lui demander, il est encore à Paris, je ne sais pas s'il est déjà parti ce soir.
Ça marche du tonnerre, cette boisson. Je veux dire, c'est un vrai gros business.
Je crois qu'il y a plus de 1000 boutiques dans le monde maintenant. Il y en a 5 à Paris. Ça marche.
La Acai Bowl, t'as jamais entendu parler de ça?
Non, je ne connaissais pas cette boisson. Bien sûr.